Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 15 mai 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran réaffirme sa solidarité avec le peuple opprimé de Palestine à l'occasion du jour de la Nakba. Des milliers de prisonniers palestiniens organisent une grève de la faim d'une journée pour protester contre la politique répressive d'Israël. Et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie intensifie les préparatifs du retrait de 2000 soldats en juin. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié dimanche 14 mai un communiqué à l'occasion du 75e anniversaire de la création illégitime du régime sioniste, connu parmi les Palestiniens comme le jour de la Nakba, catastrophe. Dans le communiqué, l'Iran a réaffirmé sa solidarité avec le peuple opprimé de Palestine, affirmant que les auteurs israéliens des récents crimes dans la bande de Gaza assiégée doivent être punis. Le ministère a souligné l'importance de soutenir la résistance du peuple palestinien et sa cause légitime pour libérer les territoires occupés et établir un État indépendant avec la ville de Quds comme capitale. Le ministère a déclaré que tous les plans politiques présentés au cours des trois dernières décennies n'ont abouti à aucun résultat en raison de leur négligence des causes profondes de la crise. Le communiqué a réitéré une fois de plus la solution démocratique de la crise, solution qui est basée sur le retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur patrie et la tenue d'un référendum avec la participation de tous les habitants originaires de la Palestine, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, pour déterminer leur propre destin et leur système politique. Le ministre a condamné les crimes commis par le régime sioniste ces derniers jours contre les habitants de Gaza, qui sont assiégés depuis plus de 18 ans dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, soulignant que ces actes criminels constituaient une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme. Le communiqué souligne que le silence et l'inaction des partisans des sionistes et des soi-disant défenseurs des droits de l'homme ont ajouté à l'insolence du régime de Tel Aviv, soulignant la nécessité de punir les responsables israéliens en tant qu'auteurs des récents crimes inhumains. Sans aucun doute, l'unité de l'Oumma islamique, la détermination et la volonté de tous les gouvernements et les nations en quête de liberté à travers le monde qui soutiennent la nation palestinienne opprimée sont une nécessité et une responsabilité et sont considérés comme plus précieux pour les luttes de libération du peuple palestinien. Peut-on lire encore dans le communiqué? Le jour de la Nakba tombe le 14 mai de chaque année, marquant la période de 1948 où plus de 750 000 Palestiniens ont été expulsés de force de leurs maisons et dispersés dans des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, dans la bande de Gaza et dans les pays voisins de la Palestine. Des millions de personnes ont défilé à Londres, New York, Dublin et Vienne pour marquer le 75e anniversaire de la création illégale du régime sioniste, connu parmi les Palestiniens comme le jour de la Nakba. Les manifestants ont appelé à la fin de l'occupation de la Palestine par le régime sioniste lors des rassemblements organisés dimanche. À Londres, capitale britannique, une manifestation baptisée Nakba 75, mettre fin à l'apartheid, mettre fin à l'occupation, s'est déroulée devant le siège de la BBC avant que les participants ne se dirigent vers Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre. La manifestation a été organisée par le Forum palestinien de Grande-Bretagne, les Amis d'Al-Aqsa, la campagne de solidarité avec la Palestine et l'Association musulmane de Grande-Bretagne. Des milliers de prisonniers palestiniens organisent une grève de la faim d'une journée pour protester contre la politique répressive d'Israël, exiger la libération immédiate d'un détenu palestinien malade. Le Comité suprême d'urgence pour le mouvement des prisonniers palestiniens a annoncé dimanche dans un communiqué que la grève de la faim débuterait ce lundi. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'un des principaux objectifs de cette mesure serait de faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles libèrent le détenu palestinien de longue date, Walid Daqa. Écrivain et militant, il est emprisonné par Israël depuis 1986 pour sa résistance contre le régime d'occupation. L'année dernière, on lui a diagnostiqué une myélofibrose, une forme rare de cancer de la moelle osseuse qui perturbe la production normale de cellules sanguines. En février, Daqa subit un accident vasculaire cérébral causé par un caillot de sang et a été transféré à l'hôpital en raison de son état de santé récurrent. La grève de la faim vise également à protester contre les politiques israéliennes d'isolement cellulaire et de détention administrative. La détention administrative est une politique inhumaine utilisée par le régime d'occupation qui lui permet de garder des Palestiniens en prison pour des périodes indéfinies sans aucune inculpation ni procès. Le comité a ajouté que la démarche de protestation vise également à exiger la fin de l'isolement cellulaire de trois dirigeants du Front populaire de libération de la Palestine. Le mois dernier, un rapport d'un groupe de défense des droits des Palestiniens a révélé qu'Israël gardait environ 4 900 détenus palestiniens, dont de nombreuses femmes et enfants, derrière les barreaux. Le rapport, publié à l'occasion de la journée du prisonnier palestinien, indique que ce chiffre comprend 31 femmes palestiniennes et 160 enfants de moins de 18 ans. Au cours des derniers mois, les démissions des agents des forces de l'ordre se multiplient en France en raison de ce qu'on appelle de meilleures conditions de travail, selon le rapport du site web France TV Info. À Nice, plus de 80 policiers municipaux sont d'anciens gendarmes ou policiers nationaux. L'adjoint à la sécurité de la ville, Anthony Boré, l'explique par les conditions de travail avantageuses ou des locaux dans lesquels ils travaillent. La municipalité niçoise veut donner envie et ceci va au détriment de la police nationale et de la gendarmerie. Ce phénomène est devenu un casse-tête pour le ministère de l'Intérieur qui cherche des solutions mais fait face à de nombreuses difficultés. Les divers gouvernements ont multiplié les primes avec 730 millions d'euros débloqués depuis 2016 pour tenter de faire rester les effectifs de police et de gendarmerie nationale. Mais les démissions se multiplient. Principales raisons évoquées, l'âpreté de la profession, des rémunérations jugées trop faibles et la mauvaise image globale des forces de l'ordre. Un récent rapport de la Cour des comptes a évoqué des démissions en masse dans la police et la gendarmerie nationale de ce pays. Côté police, le nombre de départs a bondi de 33% en 4 ans, contre 25% chez les gendarmes. Un constat inquiétant malgré des vagues de recrutement à l'orée de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques en 2024. En outre, il est à noter qu'en 2022, il y a eu près de 6 000 départs imprévus en comptant la police et la gendarmerie, presque deux fois plus que l'année précédente. C'est aussi le cas dans la police judiciaire. Près d'un enquêteur sur cinq menace de démissionner si une grande réforme que beaucoup rejettent est maintenue. La France formera et équipera plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-DRC, selon une déclaration commune de la France et de l'Ukraine publiée lundi 15 mai sur le site de l'Élysée. En outre, la France concentre ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine et participe activement aux mesures de l'Union européenne et de l'OTAN en matière d'assistance militaire à l'Ukraine et de formation des soldats ukrainiens, selon la même déclaration faite à l'issue d'une rencontre dimanche soir à Paris entre les présidents français et ukrainiens. À chaque visite, les capacités offensives et de défense de l'Ukraine se développent. Les liens avec l'Europe se renforcent, a tweeté en anglais le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, avant Paris, s'était rendu à Rome et à Berlin. Il s'agit de sa deuxième visite à l'Élysée depuis l'escalade de la crise ukrainienne en février 2022. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a annoncé dimanche avoir intensifié les préparatifs du retrait de 2000 soldats de Somalie d'ici le 30 juin. Mohamed El Amin Souef, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef de l'ATMIS, a indiqué qu'un comité technique conjoint, composé de membres issus des parties prenantes concernées, y compris le gouvernement somalien, le Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie et l'ATMIS, avait identifié plusieurs bases militaires qu'il a convenu de transférer de l'ATMIS aux forces de sécurité somaliennes, FSS, ou de démanteler. Voilà, si s'achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Augmentation significative du nombre des entreprises européennes en faillite. Les résultats d'une enquête montrent que l'augmentation significative des prix de l'énergie et des matières premières dans les pays européens a entraîné une augmentation significative du nombre des entreprises en faillite dans les pays européens l'année dernière. Au total, 139,973 entreprises ont fait faillite en 2022 dans les 14 pays d'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni. Cela représente une augmentation de 24,2% par rapport à l'année précédente, a rapporté l'agence de crédit Credit Reform dans une enquête récemment publiée. Ainsi, en Europe de l'Est, le nombre des entreprises en faillite a augmenté de 53,5% à plus de 60 000 cas. L'Autriche a enregistré une augmentation significative, plus 59,7%, avant l'Angleterre, plus 55,9%, la France, plus 50,0% et la Belgique, plus 41,7%. Le nombre des entreprises en faillite a également augmenté en Suisse, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en Norvège, en Finlande, en Suède et en Allemagne. Par contre, les cas de faillite ont diminué au Danemark, au Luxembourg, au Portugal, en Italie et en Grèce, selon le même rapport. En Europe de l'Est, 7 des 12 pays examinés ont enregistré une augmentation du nombre de faillites. L'augmentation des faillites a été particulièrement explicite en Hongrie, en Bulgarie et en Lituanie. Il semble que ce processus n'a pas encore touché à sa fin. On peut donc s'attendre à une augmentation du nombre des entreprises en faillite dans les mois qui viennent. D'autres entreprises en Allemagne ont annoncé leur défaillance selon les chiffres publiés par l'Office fédéral allemand de la statistique en février. Les tribunaux régionaux allemands ont signalé 1362 demandes de mise en faillite d'entreprises en once de 20,3% par rapport au même mois l'an dernier, annoncé vendredi l'Office allemand de la statistique.
Bonjour à tous. Le sujet du jour de notre débat étant le retour conditionné dans la Ligue arabe pour la Syrie. Nos deux invités du jour se trouvent être Madame Aïssar Midani, notre expert en géopolitique, notamment pour la Syrie, et Monsieur et Maître Eli Hatem, juriste international. Je vous propose, comme le veut le débat, donc un reportage que nous avons préparé sur le sujet. Et par la suite, nous ferons donc venir nos invités tout de suite le reportage.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères s'est félicité du retour de la Syrie dans la Ligue arabe plus d'une décennie après la suspension de son adhésion par l'organisation régionale de 22 membres. Le règlement des différends entre les pays musulmans ainsi que la convergence et la synergie conjointe produiront des résultats favorables pour la stabilité et la paix collective dans la région et réduiront la motivation lucrative des interventions étrangères dans les affaires régionales, a déclaré Nasser Kanani dans un communiqué lundi matin. La République islamique d'Iran salue une telle approche, a-t-il souligné. De son côté, le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés a salué la décision de la Ligue arabe de ramener Damas dans son giron, soulignant l'importance du dialogue et de l'action conjointe pour faire face aux défis auxquels le monde arabe est confronté. Dans un communiqué publié dimanche 7 mai, le ministère a déclaré que la Syrie se félicitait de la décision prise lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes concernant la reprise de la participation des délégations syriennes aux réunions de la Ligue et de toutes ses organisations et agences affiliées, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. La Syrie souligne dans le même contexte l'importance du dialogue et de l'action conjointe pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes, a-t-il ajouté. Le ministère a réaffirmé l'engagement de la Syrie à renforcer le travail et la coopération arabe conjointe, soulignant que la prochaine étape nécessite une approche efficace et constructive au niveau bilatéral et collectif basée sur le dialogue, le respect mutuel et les intérêts communs. Plus tôt dimanche, un porte-parole de la Ligue arabe a déclaré que le ministre des Affaires étrangères de l'Organisation intergouvernementale des 22 États arabes avait adopté une décision de rétablir l'adhésion de la Syrie après sa suspension il y a 12 ans. La décision qui conduira à la normalisation des relations avec le président syrien Bachar al-Assad a indiqué que le pays pourrait reprendre immédiatement sa participation aux réunions de la Ligue arabe et de toutes ses organisations et agences. Il a également appelé à une résolution de la crise résultant du conflit en Syrie, y compris la fuite de réfugiés vers les États voisins et le trafic de drogue dans la région. Gamal Rushdie, le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, a déclaré que la décision avait été prise lors d'une réunion à huis clos des ministres des Affaires étrangères au siège de l'organisme dans la capitale égyptienne, Le Caire.
Nous revoilà donc dans les studios. Donc, elle est venue nous inviter maintenant, Madame Aïssar Midani, notre expert en géopolitique, notamment pour la Syrie. Bonjour, Madame Midani.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à Monsieur Hatem.
Merci beaucoup. Notre deuxième invité dans le juriste international, Monsieur Eli Hatem. Bonjour, Maître Eli Hatem. Merci de participer à ce débat d'aujourd'hui.
Bonjour, mes salutations à vous, à Madame Midani, et merci de votre invitation.
Alors, le sujet du jour, on va commencer par vous, Maître, si vous êtes d'accord, concernant la situation donc de la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe. Donc, il y a plusieurs choses à en dire, parce que cette réintégration semblerait conditionnée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, parce que, comme vous le savez, nous assistons aujourd'hui déjà à un réveil, politique au niveau du Proche et du Moyen-Orient en général, et je ne parle pas simplement des pays arabes. Ce réveil, il faut s'en réjouir déjà, parce qu'il permet de résorber tous ces problèmes qui ont été fomentés par l'extérieur pour créer des tensions et une déstabilisation générale. Nous avons assisté à des guerres entre l'Iran et certains pays arabes, puis des pays arabes entre eux, que je parle l'Irak et le Koweït, et puis ensuite des tensions internes dans certains pays, des tensions également entre les pays arabes eux-mêmes, même qui sont en fait d'une même culture. Je pense à l'Arabie Saoudite, et le conflit avec le Qatar, et puis j'en passe, et puis la guerre du Yémen. Aujourd'hui, c'est un réveil régional. Déjà, il y a un premier pas qui a eu lieu, c'est cette réconciliation entre deux pays de la région qui sont assoiffés donc de paix et qui se sont réveillés, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. Deuxièmement, il y a un réveil général en fait de ce relativement à cette situation que je viens de décrire en résumé, toute cette ébullition de toutes ces ingérences en fait qui ont conduit à ces différents conflits dans ces pays et au sein même de ces pays-là. Maintenant, la difficulté vient du fait qu'il y a certaines positions qui ont été prises et un problème avec l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, au Qatar, qui a été poussé, il faut le dire, par les États-Unis, parce que les États-Unis, comme vous le savez, tient le Qatar par le bout ou par la gorge, comme ils l'ont fait avec l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite s'est émancipée totalement de ce diktat en fait américain ou de cette prise d'otage par les Américains. Le Qatar, il a la principale, je dirais, base militaire américaine sur son territoire et il a été poussé à prendre, à financer, à aider et d'une manière directe et indirecte la déstabilisation donc de la Syrie. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour lui, pour son opinion publique, de changer totalement donc de stratégie. Bon, c'est une façon, si vous voulez, pour rétablir progressivement les relations entre les différents pays donc de la région, en particulier pour renforcer la Ligue arabe, parce que nous avons surtout assisté à une sorte d'un phénomène qui est celui de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, avec l'émergence de mouvements extrémistes religieux qui sont fondés sur l'école du hanbalisme, le wahhabisme, le salafisme, et qui a déstabilisé également pas mal de sociétés au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase, je dirais, de défanatisation de ces différentes sociétés, et c'est la raison pour laquelle ça va prendre un peu de temps, comme d'ailleurs, nous l'avons vu, le premier pas entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Nous attendons d'autres pas encore pour renforcer cette réconciliation et œuvrer pour la paix et dans l'intérêt des différents pays et entités de la région.
Merci, Maître Eliatem. Alors oui, on parle entre la Syrie et puis la Ligue arabe de 12 ans hein, de dislocation, un discours pour les deux, pour l'entité de la Ligue arabe et pour la Syrie différent. 12 ans, c'est long, ça représente une génération dans tous les cas de figure. Madame Aïssar Midani, alors on avait vu il y a quelques mois, lorsque l'Algérie avait donc dirigé et présidé la Ligue arabe à Alger, cette envie de réunifier le monde arabe. On se rappelle que l'Algérie ne s'entend pas forcément avec tous les pays, bien que diplomatiquement ils n'ont jamais arrêté d'avoir le même discours de diplomatie. Donc ça, on en arrive à quelques mois par la suite avec cette réentente, on va dire ça comme ça, bien comme l'a très bien illustré Monsieur Maître Eliatem, il y a encore une dissonance. Bachar al-Assad est président élu. Donc, est-ce que ça va être quelque chose de positif également pour sa réélection, sachant que le peuple syrien attendait ça, attendait plus de diplomatie et plus une envie d'aller vers les voisins et d'essayer de trouver un terrain d'entente?
Écoutez, le peuple syrien n'a jamais été hostile vis-à-vis des autres pays arabes, hein, malgré tous leurs agissements contre la sécurité et la stabilité en Syrie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le peuple syrien aussi est toujours un grand soutien à son président, Bachar el-Assad, et qui, je voudrais quand même le dire en passant, s'il n'y avait pas cette adhésion populaire et cet amour du peuple à cette personne, il n'aurait pas tenu pendant les 12 ans de toute une guerre de terrorisme et une guerre de mensonges, de médiatiques, de grosses fake news, en fait, des faits créés de toutes parts par les médias mainstream, et cette guerre horrible qui a été menée contre le peuple syrien, finalement, en prétendant que c'était contre le président Bachar, tout ça dans l'esprit d'un changement de régime, tout ça parce que le président Bachar el-Assad a tenu tête à tous les diktats américains et européens, et il a tenu à l'indépendance et à la souveraineté de la Syrie, et surtout à l'indépendance de la décision politique de la Syrie. Le président Bachar el-Assad a défendu effectivement la souveraineté du pays. Il a réalisé, je dirais, l'unité nationale que cette propagande et cette agression sous le vocable horrible du printemps arabe, soi-disant. Donc il a vraiment sauvé l'unité nationale, l'unité de l'ensemble de toutes les confessions syriennes qui forment les confessions et les ethnies qui forment le peuple syrien, et qui s'est aujourd'hui, pendant toutes ces douzaines d'années, regroupé autour du président et autour de l'armée arabe syrienne, qui est de toute façon une armée de conscription qui représente l'ensemble de tout le peuple syrien. Donc en fait, malgré les mensonges qui ont été diffusés sur tous les médias mainstream, le président Bachar el-Assad a tenu, et maintenant ce retour, je dirais, de la Ligue arabe à la Syrie, alors qu'elle avait autorisé et illégalement la suspension de la Syrie, de la Ligue arabe, alors que la Syrie est un membre fondateur, alors que dans la charte de la Ligue, il fallait l'unanimité pour prendre de ce type de décision, et il n'y avait pas d'unanimité. Je rappelle quand même que l'Algérie a été toujours contre cette décision, et que l'Irak aussi était contre cette décision. Donc, en fait, c'était une suspension illégale, bravant quand même la constitution et la charte de la Ligue arabe, mais malgré tout, elle a été opérée par la force des États-Unis et du Qatar, qui était aussi dans la Ligue arabe, et en fait, avec un argent fou qui a été dépensé. Eh bien, malgré tout, la Syrie a tenu. La Syrie, tous les Arabes reviennent à la Syrie aujourd'hui parce que la Syrie a triomphé et a montré quand même que sa voie était la voie juste de la défense du peuple syrien, du peuple palestinien, que la boussole n'est pas du tout l'Iran aussi, parce qu'il voulait transformer ça, ni les chiites. Mais la boussole, c'est la Palestine, qu'il faut libérer tous ensemble et qu'il faut créer une unité nationale aussi pour la défendre. Donc c'est aussi en consolidant l'axe de la résistance avec l'Iran, et que d'un autre côté, il est important que dans la région, on puisse travailler pour une complémentarité économique et sociale, pour le bien des peuples de la région, alors qu'on est départi de nos richesses. Toutes nos richesses sont pillées depuis des années par les forces occidentales occupantes, et surtout cette création du cancer au sein des pays arabes, qui est Israël, et il faut vraiment que tout le monde soit uni contre cet ennemi unique, hein, et de tous les peuples arabes, qui est Israël, qui n'est rien d'autre qu'une extension des États-Unis et de l'Occident colonial dans la région.
Merci, Madame Aïssar Midani. Maître Eliatem, donc on l'a, comme vient de le dire Madame Midani, la Syrie s'est vue bafouée. Hein. C'est une des raisons pour laquelle Bachar al-Assad a indiqué qu'il attendait un geste de la Ligue arabe avant de faire un geste vers ces mêmes pays arabes de la Ligue. Est-ce que ça va réfréner la situation? Est-ce que ça va empêcher la situation d'aller plus vite? Parce qu'on voit bien que la région a besoin de cette unification. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine en Palestine, quand on sait la situation humanitaire du Yémen, il y a des régions qui ont besoin de cette stabilité, un besoin même auprès de l'Arabie Saoudite, puisqu'on sait qu'il y a une crise économique suite à toutes ces guerres qui ont été provoquées depuis 12 ans. Donc est-ce que les choses vont aller vite dans ce sens? Est-ce que vous pensez, vous, en tant que maître et en tant que juriste international, voyant la situation internationale du monde entier, est-ce que vous pensez que la Ligue arabe est motivée par réintégrer la Syrie avec le respect qu'ils doivent donner à la Syrie?
Écoutez, je ne veux pas faire du sentimentalisme, mais il y a une situation sur le terrain qui est très claire. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé déjà l'Arabie Saoudite se réconcilier, les Émirats et d'autres pays du Golfe avec le Qatar, et ou bien les pays du Golfe également serrer la main et se réconcilier avec l'Iran. Donc nous allons vers une phase de paix et de prospérité, surtout pour la région du Proche et du Moyen-Orient. Il faut rappeler, c'est ce que Mme Midani a très bien souligné, qu'il y a un projet politique, il y a pour objectif de disloquer les entités nationales, détruire les institutions étatiques, soit de l'intérieur par des soi-disant des révolutions populaires qui ne sont autres que stipendiées par des mercenaires, par des forces étrangères, comme l'a très bien souligné encore Madame Aïssar Midani en Syrie. En Syrie, il y avait un projet d'une continuité, je dirais, de ce printemps arabe qui est en fait un hiver, qui était un hiver interminable avec des mercenaires pour disloquer l'État syrien et pour créer des entités, soit des communautés sur le fondement d'un communautarisme religieux, c'est-à-dire des mini-États sunnites, chiites, alaouites, druzes, maronites, orthodoxes, et puis j'en passe, ou bien ethniques d'ailleurs, kurdes, turcs, et puis j'en passe. Et donc, ce projet a échoué. Le seul projet qui est sur le terrain, et c'est cette entité sioniste qui est complètement artificielle, qui a commencé également à se disloquer avec les différents aspects internes, avec cette dissension entre les Ashkénazes qui sont au sommet, si vous voulez, de cette hiérarchie sociale, avant la caste des séfarades ou des mesraïs, et la troisième caste avant les goyim, et qui sont les falachas. Donc, nous assistons quand même à un réveil, et ce réveil, c'est un réveil, je dirais, généralisé dans la région. C'est ce qui a poussé aujourd'hui les forces d'occupation israéliennes de s'attaquer et de faire ce que, pour moi, à mon sens, c'est cet ensemble de pogroms qui est effectué par les forces militaires de l'entité sioniste n'est autre qu'une extermination progressive par différents pogroms de la population palestinienne. Et puis nous avons vu également comment ils ont mis l'huile sur le feu entre les membres de la résistance palestinienne en détruisant la résistance militaire ou telle qu'elle était par exemple conçue par nous en Occident, la France contre l'occupation allemande avec la résistance nationale, un recours à des actes de courage. Et puis après, donc, il y a eu quand même l'apparition du Hamas qui a été créé dans l'objectif de créer une tension entre l'OLP et le Hamas. Mais aujourd'hui, c'est un réveil également national palestinien, et donc, je dirais, de toutes les confessions, il faut insister là-dessus, parce que ceux qui défendent la mémoire, par exemple, aujourd'hui, hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire du meurtre de Shirin Abu Akla, qui est chrétienne d'ailleurs. Ce sont autres en fait que le Hamas, qui est considéré quand même comme un mouvement musulman ou islamiste. Mais en réalité, c'est le seul à dénoncer et à rappeler ce crime, ce meurtre d'une chrétienne palestinienne. Donc le projet, ce projet américano-sioniste qui visait la dislocation du Proche et du Moyen-Orient en des entités communautaires ou ethniques qui se battent entre elles perpétuellement pour pouvoir mieux les gouverner selon la formule divide et impere, donc cela a échoué. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a, à mon sens, un pas vers l'avenir. Et ce réveil, nous l'avons vu, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe.
Maître Yatem, je me permets de vous interrompre pour vous poser la question pour la loi César. Est-ce que ça va permettre à l'Arabie Saoudite, enfin à la Syrie, donc, de passer outre ces sanctions qui sont aussi dures que celles subies par les Iraniens? Est-ce que le fait de revenir dans cette Ligue arabe, de réavoir des relations diplomatiques avec les membres de cette Ligue arabe, va permettre à la Syrie donc de s'en sortir et de sortir, d'aller en dehors de ces sanctions? Maître Iliatem.
Oui, écoutez, il faut dire une chose, c'est que j'ai publié un article il y a quelques jours relatif aux sanctions. Les sanctions étaient efficaces et c'était une arme de l'hégémonie, de la domination plutôt utilisée par les États-Unis qui dominaient l'ensemble du monde et qui avaient un monopole sur les transactions commerciales et financières et monétaires et autres. Or, aujourd'hui, il y a un nouveau monde libre qui est en train d'émerger. Aujourd'hui, les principales transactions financières ne se font plus en dollars, mais ils se font en yuan. On voit très bien que l'Arabie Saoudite, qui est devenue le premier fournisseur de pétrole à la Chine et qui produit quand même 20% du pétrole mondial. Et les autres opérations se font également en rouble. Aujourd'hui, il y a un autre système parallèle. Donc, le système dollarisé, les pétrodollars et le dollar est en train de régresser. Et donc, les sanctions américaines n'ont plus le même effet. Et aujourd'hui, nous nous attendons plutôt à des contre-mesures, c'est-à-dire des contre-sanctions contre les États-Unis et contre les alliés, et notamment par l'intermédiaire non seulement des sanctions financières, monétaires, comme la loi César contre la Syrie, qui n'a plus aujourd'hui d'importance, puisque les transactions se passent par bientôt par un nouveau SWIFT, parce que ça a commencé cette façon, si vous voulez, de mener les transactions internationales, mais également avec l'émergence de nouvelles institutions judiciaires internationales, comme une certaine cour pénale internationale qui est à la haie, mais dont les États-Unis et certains pays ne font pas partie. Nous nous attendons à de nouvelles institutions qui vont poursuivre tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et les complices qui sont restés muets. Et je donne l'exemple, tout à l'heure, Madame Midani a parlé de la Palestine. Effectivement, il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et preuve en est la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, numéro 77/247 du 30 décembre 2022, qui parle de ces crimes de guerre. Et aujourd'hui, les pays occidentaux qui laissent faire ces crimes de guerre risquent fort non seulement d'être sanctionnés par ce nouveau monde libre qui représente la majorité des pays de la planète, mais d'être malheureusement poursuivis devant des nouveaux tribunaux internationaux qui représentent la totalité ou la majorité écrasante de la population internationale.
Merci.
Pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Merci, Maître Eliatem. Encore une fois, je rappelle, donc juriste international. Je vous remercie de votre participation, Madame Aïssar Midani. Toujours un plaisir de pouvoir partager et de voir écouter votre expertise, surtout sur la Syrie. On rappelle à tous nos téléspectateurs, auditeurs, la situation palestinienne de cette semaine. Beaucoup de martyrs sont tombés. On espère tous que ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Ligue arabe va améliorer la situation en Palestine. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir à une prochaine édition du débat.
miniature persane. Aperçu de la peinture iranienne sous les Safavites. Première partie. La période Safavite marque le début d'une phase de transition grandiose dans la quasi-totalité des aspects de la vie iranienne. La politique et la géopolitique, l'économie et le commerce, la religion et le spirituel, les arts et surtout la poésie, tous ont été profondément impressionnés et bouleversés, ayant laissé par conséquent un impact déterminant sur toute la vie persane des périodes qui ont succédé. Première dynastie intégrale d'origine iranienne depuis l'arrivée de l'islam, les rois Safavides, qui vivaient avec la menace des Ottomans sur la côte ouest de l'Iran, ont officialisé le chiisme en tant que religion nationale, ayant unifié le territoire iranien après de nombreuses batailles, ont contribué à l'avènement d'une ère nouvelle dans l'histoire du pays. Il est important de noter que comme c'est précisément en l'an 1500 que Shah Ismail, petit-fils de Cheikh Safieddin Ardebili, a conquis Tabriz et l'a choisi pour capitale, la naissance de cette époque coïncide avec celle du système capitaliste de production économique dans l'Europe centrale et de l'Ouest, ainsi qu'en Angleterre. Ce gouvernement oriental despotique, qui voulait mettre fin à une longue période de féodalisme érosif et érodé, a mené ses tâches à bien au travers d'une série de luttes acharnées contre les Ouzbeks dans le nord-est et contre les puissants ottomans à l'est. Pour ce qui concerne l'art et l'architecture, l'Iran de l'époque safavide a été témoin d'une évolution pluridimensionnelle dans la forme et le fond, les sujets et les thèmes, ainsi que dans la technique et l'esthétique artistique. Bon nombre de bâtiments ont été construits, surtout à Isfahan. La calligraphie et l'artisanat se sont développés et la peinture a fait beaucoup de progrès. L'art de la peinture, avec l'avènement de deux génies universels, Kamal ed-Din Behzad et Reza Abbasi, s'était mis au départ au service de la cour, qui jouait le rôle de mécène. Et progressant alors de manière sensible, s'en est peu à peu détaché pour se diriger vers la représentation de la réalité humaine. Dans le présent article, nous allons dresser un court bilan de cet art sous le règne de la dynastie Safavide, en distinguant les deux écoles majeures de peinture de cette période, le plus souvent désignées par les noms de l'école de Tabriz et l'école d'Isfahan. L'école de Tabriz, Kamal ed-Din Behzad, avant la victoire de Shah Ismail sur les Arqayoulous, aboutissant à l'instauration de la dynastie Safavide, de grands styles régnaient dans le monde pictural iranien. L'école de Herat, où s'était développé un style académique et naturaliste fondé sur la représentation de l'homme, et celle des Turkmènes, basée sur l'imagination et la représentation de paysages. Kamal ed-Din Behzad appartenait à l'école de Herat. Il vécut à Herat jusqu'à ce que le roi Ismail ordonne son déplacement à Tabriz, où il fut nommé responsable de la bibliothèque impériale. L'émigration de cet artiste a entraîné le transfert d'une école enracinée dans les traditions turkmènes et chinoises vers une ville où vivaient d'autres grands artistes tels que Sultan Muhammad Tabrizi. Ce dernier a d'ailleurs été fortement influencé par Behzad. L'école d'Isfahan, Reza Abbasi. Avec le couronnement de Shah Abbas Ier en 1597, la capitale des Safavides est transférée à Isfahan, décision qui va transformer cette ville en l'un des plus grands centres économiques, artistiques et culturels de cette époque. Des dizaines d'artistes et d'architectes, d'artisans et d'ingénieurs sont recrutés par la cour et mis en service du roi. Ce courant marque la formation d'une classe de commerçants et de bourgeois qui deviennent en grande partie de nouveaux mécènes pour les arts et les artistes. Cependant, la plupart des arts et métiers artisanaux restent dépendants de la cour et de la noblesse. Pour ce qui concerne la peinture, cet art devient plus autonome par rapport de la cour royale, ce qui conduit à sa popularisation relative. La peinture ne s'occupe plus alors exclusivement de l'illustration des livres et des recueils de poèmes et s'intéresse de manière plus significative à la figuration de la vie réelle. L'école de Tabriz s'est enrichie par le travail de divers maîtres, le plus éminent d'entre eux étant Reza Abbasi, grand artiste qui développe l'esthétique fondée par Behzad et Sultan Muhammad, en donnant un nouveau souffle à la peinture iranienne. Ali Asrar Kashani, l'un des artistes de la cour de Shah Ismail II, Reza est né en 1567. Ayant rejoint le cercle de la cour de Shah Abbas en 1590, Reza Abbasi, qui ne doit pas être confondu avec Ali Reza Abbasi, célèbre calligraphe de cette même période, apporte diverses contributions au renouvellement de l'esthétique et des techniques de la peinture de cette époque glorieuse. Du point de vue technique, il est surtout célèbre pour ses dessins au siyah kalam, kalam noir, technique qu'il a léguée à la postérité, mais aussi pour le pouvoir d'expression qu'il accorde à la ligne avec une touche qui lui est propre. Du point de vue thématique, sa grandeur réside avant tout dans les thèmes qu'il traite, dont la plupart sont issus de la vie quotidienne des gens ordinaires, des peintures de genre, si l'on peut les appeler ainsi. Une conception assez simplifiée de l'espace et de la couleur, comparée avec les œuvres appartenant à l'école de Tabriz, n'empêche pas Reza Abbasi de construire une œuvre expressive et vive avec des tonalités et des diversités très riches. L'œuvre de Reza Abbasi, dont un musée est baptisé à son nom, ne se limite pas à des portraits et des toiles séparées. Mais il a également illustré, comme ses prédécesseurs, des épopées et des poèmes tels que le Shahnameh de Ferdowsi et Khosrow Bashirin de Hakim Nezami. Certaines peintures murales des palais Ali Rapou et Chehel Sotoun d'Ispahan lui sont également attribuées. Ayant quitté la cour à l'apogée de sa gloire pour des raisons qui nous sont restées inconnues, le grand peintre est allé vivre parmi le peuple. Une hypothèse de cet abandon pourrait être la suivante. Un artiste qui faisait preuve d'engouement pour les masses populaires, comme plutôt Behzad et plus tard Kamal al-Molk, et comme en Europe occidentale, Rubens et Rembrandt, ne peut supporter de voir un peuple souffrir et se sacrifier pour le luxe de la cour. Il aurait ainsi préféré quitter l'institution royale pour s'intégrer au sein de la société de laquelle il était originellement issu. Parmi les célèbres toiles de cette période de l'œuvre de Reza Abbasi, nous pouvons évoquer des images de lutteurs ou encore d'hommes du désert. Il mourut dans la solitude et la pauvreté. L'épanouissement des arts picturaux et surtout de la peinture durant la période safavide atteste une fois encore des rapports étroits existants entre l'évolution artistico-littéraire d'une part et les systèmes politiques en place de l'autre. Sans imposer des censures et des restrictions accablantes sur le contenu des œuvres, les rois safavides protégeaient les artistes et les artisans. Il est vrai cependant que les techniques artistiques mises en œuvre par Behzad et Reza Abbasi n'ont pas atteint celles des arts occidentaux pendant la Renaissance et l'ère baroque. Ce fait étant dû avant tout au retard considérable sur le plan socio-économique qui a obstrué la voie au développement politico-culturel en Iran. C'est que, pour la première fois en Iran, l'artiste a commencé à se détacher dans son œuvre des liens qui le mettaient sous le joug des hommes de fortune et de puissance, et ce, par une prise de conscience face à la nature et à l'histoire. L'illustration des recueils de poésie, du Ramsay et du Shahnameh, bien qu'elle constitue un progrès grandiose dans cette période, ne constitue plus désormais la tâche unique et sacrée des peintres et dessinateurs. Certes, elle en fait partie, mais elle ne suffit point dorénavant pour rendre éternel un artiste et pérenniser son œuvre.